Et le journal est présenté par vous, Sébastien Berriot.
Bonsoir à tous. Dans ce journal, le bilan qui s'alourdit chaque jour après le tremblement de terre de dimanche dernier en Indonésie. Déjà plus de 300 morts et des milliers de sans-abri alors que l'île de Lombok a été touchée aujourd'hui par une violente réplique. Reportage sur place de Joël Bronner. La guerre au Yémen qui fait une nouvelle fois des victimes civiles. Au moins 29 enfants tués aujourd'hui dans un raid aérien mené par la coalition autour de l'Arabie Saoudite. Explication de Valérie Crova. En France, pas de vraies vacances cet été pour de très nombreux futurs étudiants qui ne connaissent toujours pas leur affectation à la rentrée. Malgré les promesses du ministère de l'Enseignement supérieur, le système Parcoursup reste très engorgé, nous dira Camille Magnard. En politique, Jean-Luc Mélenchon, ouvert au dialogue, il invite les députés d'opposition à participer à l'université d'été de la France Insoumise à la fin du mois. Plusieurs parlementaires LR et PS ont déjà accepté. Analyse de Sophie Delpont. Et puis une campagne du ministère de la Santé sur le port du préservatif qui fait polémique. Certains la jugent contre-productive. Antoine Marette viendra nous expliquer pourquoi. Mouvement de panique ce matin dans le nord de l'île de Lombok en Indonésie qui a donc été touché par un nouveau tremblement de terre d'une magnitude de 6,2 sur l'échelle ouverte de Richter. Pas de victimes mais des bâtiments se sont effondrés. Une violente réplique après le séisme de dimanche dernier dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Les derniers chiffres communiqués de sources officielles indonésiennes font état de 319 morts. Sur place, les populations tentent de faire face dans des villages dévastés. 270 000 personnes ont été déplacées. Plus de 10 000 se retrouvent sans abri, comme le montre ce reportage de Joël Bronner dans le nord de Lombok.
Au large, on aperçoit les îles Gili depuis la route qui mène au village de Pandana. Ici, la majorité des maisons se sont effondrées et les structures des autres ne sont plus assez solides pour héberger les familles qui vivaient là. Ici, ce sont 137 personnes qui vivent à présent sous des tentes, comme Azou Hussein, 53 ans.
Je crois qu'il était près de 8h du soir dimanche. Nous étions tous en famille à regarder la télé quand soudain il y a eu un tremblement de terre absolument énorme. Et en quelques instants, toutes les maisons se sont effondrées.
Dans ce village, deux personnes n'ont pas survécu aux maisons qui se sont effondrées. Un enfant de 7 ans et un vieil homme de 75 ans, selon Haji Azilullah, le chef du village qui raconte.
Ma famille et moi étions en train de prier à la mosquée. Avant la fin de la prière, il y a eu tout à coup une immense secousse, puis un gros boom. L'électricité a été coupée et on s'est retrouvés dans l'obscurité. Tout le monde est sorti, sauf moi. Je me suis accroché au pilier central de la mosquée en disant « Dieu est grand, Dieu est grand ».
Dans son village, les biens de première urgence sont assurés par les autorités. Mais il dit que ce qui lui manque, c'est un générateur, en particulier pour la nuit, pouvoir chauffer sa famille.
Un reportage sur l'île de Lombok en Indonésie, signé Joël Bronner de Radio France Internationale. Des enfants et des civils, une nouvelle fois victimes de la guerre au Yémen. C'était ce matin dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Arabie. Un raid aérien qui a touché un bus transportant des enfants. Le dernier bilan donné par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, fait état d'au moins 29 enfants tués. La coalition menée par Riyad, qui lutte contre les rebelles outils au Yémen, elle reconnaît être à l'origine de cette opération qualifiée de légitime. Valérie Crova.
La coalition menée par l'Arabie Saoudite se justifie. Cette attaque, dit-elle, intervient à la suite d'un tir de missile qui a touché hier la ville saoudienne de Jizan, dans le sud du royaume. La défense anti-aérienne saoudienne a en effet intercepté un missile qui a été tiré par les rebelles houthis. Ce serait donc un acte de représailles. La coalition prétend que l'opération d'aujourd'hui, qui a coûté la vie à 29 enfants, a été menée dans le respect du droit humanitaire et d'accuser les houthis qui recruteraient des enfants. Argument difficilement recevable dans la mesure où la cible était un bus scolaire, selon l'UNICEF. Le CICR a dénoncé une nouvelle fois une violation du droit international, selon lequel les civils doivent être protégés durant les conflits. La coalition sous commandement saoudien s'est déjà rendue coupable par le passé de plusieurs bavures qui ont coûté la vie à des centaines de civils. En avril, des frappes avaient visé des hommes, des femmes et des enfants qui participaient à un mariage. La semaine dernière, c'est un hôpital qui a été touché par un raid aérien dans la ville de Hodeïda, une ville contrôlée par les rebelles houthis et que la coalition essaye de reprendre depuis le mois de juin. Tandis que les bombardements se poursuivent, des pourparlers de paix sont censés s'ouvrir le 6 septembre à Genève, sous l'égide des Nations Unies. Le gouvernement du président Mansour Hadi a fait savoir qu'il y participerait. Les Houthis, eux, n'ont pas encore confirmé leur présence.
En Syrie, l'ONU demande à la communauté internationale de trouver au plus vite une solution pour empêcher un bain de sang dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Cette province frontalière de la Turquie est la dernière à échapper quasi entièrement au contrôle de Damas. Bachar el-Assad en a fait l'une de ses priorités. D'ailleurs, ce jeudi, les forces du régime ont bombardé des positions rebelles et djihadistes dans la province. Des tracts ont été largués, appelant la population à se rendre et à respecter, je cite, « l'état de droit ». Au Proche-Orient, 7 personnes ont été blessées en cette fin d'après-midi par une nouvelle frappe israélienne dans la bande de Gaza. Pourtant, quelques heures plus tôt, le Hamas avait annoncé l'arrêt des tirs de roquettes contre l'armée israélienne, donc depuis la bande de Gaza. Et puis le ton monte entre Moscou et Washington. La Russie a décidé de mettre en place des mesures de rétorsion contre les États-Unis au lendemain des sanctions économiques annoncées par Washington, sanctions qui font suite à l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-agent Sergueï Skripal avec des substances chimiques ou biologiques. Après l'annonce de ces sanctions, la bourse de Moscou ainsi que le rouble ont fortement chuté ce jeudi. En France, le ministère de l'Enseignement supérieur avait promis que la situation allait peu à peu s'arranger au fil de l'été pour les étudiants confrontés aux ratés de l'application Parcoursup. Mais alors que la rentrée universitaire approche, comme l'avaient prévu les détracteurs du nouveau système d'affectation, de très nombreux étudiants ne savent toujours pas à ce jour où ils iront le mois prochain. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir.
Un étudiant sur cinq est toujours dans l'inconnu.
Alors il y a deux cas de figure. Ils sont 66 000 à n'avoir reçu aucune réponse positive ou à ne pas avoir répondu aux propositions qui leur ont été faites. Et puis 110 000 candidats, eux, se sont vus proposer une affectation, mais comme ce n'était pas leur premier choix, eh bien ils préfèrent rester en attente sur les formations qui les intéressent plus. Eux passent leurs vacances à aller chaque jour sur Internet voir où en est leur nom dans les listes d'attente, avec pour certains de très mauvaises surprises, comme ce qui est arrivé à Louis Boyard. Il est président du syndicat lycéen Lunel.
J'étais en Italie, dans un camping où on a eu une inondation avec des fortes pluies, où du coup on a été obligé de couper l'électricité pendant plusieurs jours, ce qui fait que je ne pouvais plus me connecter avec Parcoursup, et que du coup je n'ai pas pu confirmer un vœu. Et quand on ne confirme pas un vœu sur Parcoursup, on nous considère comme lycéen inactif, et du coup on nous coupe tous nos vœux.
Alors depuis, Louis Boyard a pu faire réactiver son dossier, mais ses choix différés par les candidats, c'est un peu l'effet pervers de Parcoursup pour Gilles Roussel, qui préside la conférence des présidents d'université.
C'est un comportement qu'on a découvert avec Parcoursup, que beaucoup d'élèves restent en attente sur certaines de leurs propositions. C'est un phénomène qu'on n'avait pas du tout appréhendé, ce qui veut peut-être dire qu'ils y viennent un peu par défaut, mais ça peut aussi vouloir dire qu'ils veulent avoir le choix et avoir le dernier mot pour décider oui ou non de venir dans les formations.
Alors les présidents d'université proposent déjà de modifier Parcoursup pour réintroduire une forme de hiérarchisation dans les vœux des candidats, mais ce serait désavouer le principe même du nouveau dispositif pour le ministère où Jérôme Teilhard dirige le projet Parcoursup.
Parcoursup fait mieux qu'APB parce qu'il y a plus de 50 000 candidats en plus qui ont accepté des propositions et c'est ça l'essentiel. Et puis qualitativement, le ministère a mis en place cette année pour la première fois un processus d'accompagnement de ceux qui sont en attente. Ils ne sont pas laissés seuls pour trouver une proposition. Ça, c'est une vraie nouveauté de l'année 2018 qui n'existait pas auparavant.
Face à la situation actuelle, le ministère a avancé la date limite à laquelle les candidats devront avoir fait leur choix. Ce sera le 27 août, dans un peu plus de deux semaines, donc, pour les formations qui débutent au 3 septembre.
La France va accueillir une partie des 87 migrants autorisés à accoster hier dans le port d'Algeciras, à l'extrême sud de l'Espagne. 20 personnes seront accueillis sur le territoire français, a annoncé tout à l'heure l'Élysée, dans le cadre, je cite, de la solidarité européenne et compte tenu de la situation que connaît l'Espagne, confrontée à une arrivée très importante de migrants. Polémique autour de la nouvelle campagne lancée par le ministère de la Santé sur le port du préservatif. Une campagne destinée aux 12-18 ans qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et qui vise à rendre l'utilisation du préservatif automatique chez les jeunes. Mais la campagne passe mal auprès des jeunes concernés d'abord, mais aussi auprès des associations de lutte contre le sida et certains professionnels de santé. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Ce qui est reproché, c'est le ton trop moralisateur de cette campagne et un caractère presque contre-productif.
Effectivement, alors la campagne se veut décalée et moderne pour parler aux jeunes. Il y a d'abord cette vidéo intitulée « Pourquoi il faut toujours avoir un préservatif sur toi ?» pour faire une gourde, pour faire un feu, pour protéger ton portable. Pour le côté décalé, c'est réussi, le côté informatif, un peu moins. Mais ce qui a définitivement mis le feu aux poudres, ce sont les messages qui apparaissent sous forme de tweets, et notamment celui-ci, « Avoir un préservatif sur toi, ça t'évitera d'annoncer à l'infirmière ou au médecin que tu as eu un rapport non protégé ». La rédactrice en chef du site Têtu, Rosane Le Carboulec, dénonce un message moralisateur et contre-productif.
C'est assez culpabilisant pour les personnes à qui cette campagne s'adresse, donc c'est-à-dire les jeunes. Et par ailleurs, parce que ça véhicule le message qu'il est parfaitement honteux de parler d'un rapport à risque à un soignant, alors que le soignant est au contraire parfaitement dans son rôle là-dedans et qu'au contraire, il est nécessaire, voire indispensable d'en parler rapidement après.
L'autre critique qui est remontée, c'est le fait de genrer les professions un médecin, une infirmière.
L'organisme qui est en charge de cette campagne, donc qui est Santé publique France, qui dépend du ministère de la Santé, nous a annoncé qu'il voulait revoir la formulation de ce visuel, car il était sensible à la question de la représentation des rôles de genre. Alors effectivement, c'était une des critiques faites à ce visuel, mais ce n'était pas du tout la seule, puisque les principales critiques portaient sur la culpabilisation des patients et puis l'image qui était véhiculée de soignant-juge dans ce message.
Santé publique France n'a pas donné suite à notre demande d'interview. L'organisme a simplement répondu par courrier électronique en expliquant qu'il s'agit d'une campagne de promotion du préservatif qui s'adresse aux adolescents, qu'elle utilise l'humour et les codes des réseaux sociaux pour toucher sa cible.
Merci Antoine Marette. Tariq Ramadan reste en détention provisoire. La Cour d'appel de Paris a confirmé tout à l'heure le rejet d'une deuxième demande de mise en liberté exprimée par l'islamologue. Tariq Ramadan est en détention provisoire depuis 6 mois maintenant suite à des accusations de viol qu'il conteste. C'est ce que l'on pourrait appeler un joli coup médiatique pour Jean-Luc Mélenchon qui prépare sa rentrée politique et qui invite toutes les oppositions à venir participer à l'université d'été de la France insoumise. Ce sera à la fin de ce mois à Marseille. Députés de gauche comme de droite sont conviés, à l'exception des parlementaires du Rassemblement national. La proposition a été suivie des faits. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Puisque 2 députés LR ont répondu positivement, ainsi que 3 socialistes.
Et oui, Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loire, n'a pas hésité longtemps avant d'accepter cette invitation.
Oh ben déjà, on ne refuse jamais une invitation à débattre, à échanger. Parce que moi, je me souviens de l'UMP, il est arrivé à Nicolas Sarkozy d'inviter dans un cadre de convention les patrons de la CGT. Je pense que ça signifiait aucune convergence en termes d'idées, en termes programmatiques, mais c'est toujours intéressant de débattre.
Sauf qu'il s'agit là de représentants politiques et non pas syndicaux. Le député Les Républicains a présidé la commission d'enquête parlementaire sur la vente de l'entreprise Alstom. C'est sur ce thème-là qu'il interviendra, avec un constat qui ne devrait pas détonner.
Avec Macron, on touche aux limites de cet ultralibéralisme qui finalement amène à brader beaucoup de choses dans notre pays, notamment en matière industrielle. Et la France insoumise ne doit pas être seule à en parler. Je serai là pour porter aussi la voix des Républicains sur ces sujets-là.
Pour Manuel Bompard, le directeur des campagnes de la France insoumise, ouvrir le débat jusqu'à la droite permet au mouvement de Jean-Luc Mélenchon d'asseoir sa place de principale force d'opposition.
Montrer que la France insoumise, première force d'opposition, elle donne aussi la parole aux autres oppositions pour qu'elles puissent s'exprimer sur un certain nombre de sujets, aussi montrer des convergences face à l'offensive du gouvernement qui est une offensive extrêmement forte. Et donc, il faut résister. Il y a des oppositions, bien sûr, elles sont pas d'accord sur tout, mais c'est utile qu'elles puissent débattre ensemble aussi.
Un député communiste et un député du mouvement de Benoît Hamon seront également présents. Dialogue renoué aussi avec le PS depuis l'affaire Benalla. Le porte-parole du Parti socialiste Boris Vallaud a confirmé sa présence. Le député PS Emmanuel Morel, proche de Jean-Luc Mélenchon, veut y voir la promesse d'un nouveau départ pour la gauche française, indispensable pour les futures batailles électorales.
Merci Sophie Delpont pour ces explications. Les prévisions de Météo France pour la la journée de demain. Après les orages des derniers jours, le temps sera plus calme, sauf sur les côtes de la Manche et du Cotentin qui seront touchées par des pluies orageuses. Du soleil partout ailleurs, notamment sur toute la moitié sud. 23 degrés demain après-midi à Paris, 25 degrés à Foix et 30 à Ajaccio. Merci d'avoir suivi ce journal. Il est 18h15 sur France Culture, journal qui a été préparé avec François-Charles Domergue. Les prochaines informations, ce sera le journal de 22h tout à l'heure avec Ilan Malka. Excellente soirée à tous.